c'est Nordine, en direct du Rex à Paris, la manif. Salut Daniel, et à la prochaine.
Oui, bonjour, je m'appelle Elodie, je suis professeure des écoles dans les Hauts-de-Seine. J'étais gréviste jeudi et je suis en ce moment très très en colère contre la façon dont on traite le problème de l'éducation nationale. J'étais gréviste parce que je suis complètement en désaccord avec les nouveaux programmes qu'ils veulent appliquer à la rentrée prochaine. Des programmes dans lesquels on retourne complètement en arrière. On prend pas du tout en compte toutes les avancées pédagogiques qui ont été faites depuis de nombreuses années. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait des expériences, qui ont mis en avant des choses qui étaient très importantes pour les enfants. On n'en tient pas compte. On fait croire aux parents qu'on va régler le problème de l'échec scolaire de cette façon-là, alors qu'on va l'accentuer en augmentant les difficultés, en augmentant les écarts entre les enfants. On met en cause la maternelle, on remet en cause les rasettes, qui sont des réseaux d'aide pour les enfants en difficulté, tout en faisant croire que c'est parce que les enseignants sont tous capables, en fait c'est juste des économies. Donc la seule réaction suite à cette grève, la seule réaction gouvernementale, c'est celle du président pour rendre obligatoire le service minimum en opposant le droit de grève au droit de travail, comme si les grévistes étaient des fainéants. Moi, je voudrais simplement rappeler que si on se bat, c'est pas pour nos intérêts personnels, parce que là, il s'agit pas de pouvoir d'achat, de salaire ou de quoi que ce soit. On se bat pour la réussite de tous les enfants. Voilà, quand on travaille en ZEP ou en REP, c'est vraiment quelque chose d'important, de primordial, qui nous tient à cœur. Donc je trouve que l'information sur ces problèmes-là ne passe pas tellement. Malheureusement, les parents sont pas tous informés, donc c'est important de pouvoir leur dire que c'est pour leurs enfants qu'on se bat, qu'il y a des choses très graves qui se passent et qui se passeront si on laisse faire. Donc voilà, je vous remercie de donner la parole un petit peu à des gens qui ont envie de se battre.
Salut. Eh ben moi, j'ai pas d'enfants. Alors le service minimum à l'école, j'en ai rien à foutre. Par contre, je voyage beaucoup. Alors ce qui serait bien, c'est qu'on forme les employés municipaux à piloter des avions. Comme ça, en cas de grève d'Air France, ils pourraient prendre les commandes. Et il y aurait un service minimum sur les avions. Voilà, faudrait y penser. Salut.
Oui, Jean de Manade. Bonjour Daniel, là-bas j'y suis. Petit village au fin fond de l'ouest de la Guyane française, Mana. Mana où les Amérindiens, les Noirs marrons, les Créoles, les Surinamais, les Brésiliens et autres métros cohabitent. Là-bas aussi, le gouvernement s'acharne sur le système éducatif en appliquant des réformes budgétaires irréfléchies. Dans notre collège, sont supprimés 6 postes d'enseignants, 4 classes et nous aurons 44 élèves en plus. Il faut savoir que 70% de nos élèves sont issus de milieux défavorisés et non francophones. Tous nos dispositifs éducatifs seront supprimés l'année prochaine. Les classes en demi-groupe, les classes de soutien, etc. Depuis 2 mois, nous faisons des grèves. Nous avons démarré à 70 manifestants et 3 semaines plus tard, nous étions plus de 1000 dans les rues de la sous-préfecture, à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons bloqué le recteur à Mana et mardi 20, nous allons le bloquer au rectorat à Cayenne, pour plusieurs jours s'il le faut. Nous faisons beaucoup de sacrifices en ce moment, mais nos élèves le méritent bien. L'égalité des chances pour tous ne concerne apparemment pas nos élèves. Il faut venir nous voir là-bas, à Mana, cette petite bourgade française située au bord de la forêt amazonienne. Jean de Mana.
Allô, bonjour Daniel. Je t'informe que le collectif CGT des sans-papiers de Cannes, je dis bien Cannes et région, organise un rassemblement le mardi 24 mai à 15h30 au kiosque des Allées, près du palais des festivals, lorsque les vedettes s'apprêtent à monter les marches. À Cannes aussi, beaucoup de restos fonctionne avec les sans-papiers. Il y en a aussi beaucoup qui travaillent dans le bâtiment, le nettoyage, le jardinage. Il y a 10 jours, ils étaient 120 à l'union locale CGT lors d'une réunion. Et ils sont prêts à se battre et à demander leur régularisation.
Eh oui, on a parlé de ça hier à Cannes, où nous avons présenté notre Chomsky et compagnie. À la MJC Epico, merci à tous ceux qui étaient là, leur accueil et toutes les discussions qu'on a pu avoir, c'était formidable, merci beaucoup. Et effectivement, on a entendu parler de cette histoire, de cette manif, mardi prochain, donc à Cannes, manifestation de sans-papiers. et qui, ben, on va voir, voilà, 40 ans après, comment une telle manifestation va être accueillie à Cannes. C'est un sujet intéressant. Un sujet intéressant aussi, aujourd'hui, on va partir d'une rumeur, vous savez, c'est des nouvelles vagues qui vous rentrent dans une oreille et qui sortent par l'autre, mais qui suggèrent quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que un érémiste peut avoir un bateau de plaisance? Est-ce qu'un érémiste peut avoir une Rolex? Eh ben, c'est possible. Du point de vue de la loi, c'est possible. Il y a eu un décret pour nous préserver de ces escrocs. Et Renaud Lambert a voulu savoir d'où venait cette loi, ou plutôt exactement ce décret, et comment il était entendu, et quelle était sa signification. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, allô, bonjour. J'appelle suite au message de vendredi dans la boîte vocale des ANG. Aucun message sur l'excellent documentaire de France 2, donc le service public qui a diffusé un grand documentaire sur l'évasion fiscale jeudi soir. Personne n'en parle. Quel dommage. Je me faisais une meilleure opinion des AMG, ben, ma foi, il faut que je révise. Alors, les profs défilent dans la rue contre la casse du service public. Parce qu'il faut faire des économies, parce que les caisses sont vides. Mais si les caisses sont vides, le documentaire l'a très bien montré, c'est à cause de l'évasion fiscale organisée par des cabinets d'avocats professionnels au service des multinationales, des petites entreprises et des grosses fortunes. Alors, messieurs les professeurs, si vous voulez vous battre pour défendre votre service public et la qualité de l'éducation, il faut vous battre contre la finance offshore et la délocalisation des bénéfices. Il ne faut pas vous battre contre la politique de gauche ou de droite, qui a d'ailleurs été toujours la même. Il faut vous attaquer aux racines du mal. Connaissez-vous la délocalisation des bénéfices des sociétés par les prix de transfert? Voilà. Si vous n'avez pas vu le documentaire, demandez à un ami qui l'a enregistré. Hein, et ne vous battez pas contre des moulins avant. Attaquez-vous aux racines du mal. Ou alors, vous pouvez aussi lire l'excellent petit livre de Christian Chavagneux, « Les paradis fiscaux ».
Bonjour, c'est pour annoncer un repère, donc c'est le lundi 19 mai à 19h. C'est au petit bistrot chez Alain, place de la Liberté à Mornan, donc c'est dans le 69. Alors je voulais rajouter une petite chose, en fait, sur ces révisionnistes des années Libération 68, qui sont aujourd'hui complètement accoquinés au pouvoir en place. Alors en 94, j'étais en stage en fait au Trianon Palace à Versailles pendant l'été. J'ai vu pas mal de beaux mondes, donc j'ai vu des maharajas, des mafieux, le comte de Clermont-Tonnerre, mais aussi des artistes comme Niki de Saint-Phalle. J'ai vu aussi Jean-Marie Balèze, qui était patron de la Formule 1 à l'époque et qui exigeait qu'on refasse sa chambre à l'alcool à brûler. Bon, bah, ça, c'est une libide riche. Hein. Paulus Hulitzer, qu'on devait harceler pour payer sa note d'hôtel et qui a fini un jour par sortir de ses poches et son costume plus de 30 000 anciens francs. Ouais. Et cerise sur le gâteau, un jour, on a vu arriver, enfin moi, j'ai vu arriver Ariel Dombal et son mari, donc BHL, quoi. Ariel qui était d'ailleurs très aimable, hein. Avec le recul, je me demande si c'était pas un peu de la compassion, enfin je sais pas vraiment. Alors, il venait régulièrement, en 3 mois j'ai dû les voir au moins 4 fois. Il venait donc pour des soins de thalasso. Je vous dis ça parce que moi j'ai du mal à comprendre comment on peut dépenser autant d'argent dans ce genre d'endroits qui sont complètement surfacturés en fonction de la classe sociale et prêcher un discours social. Voilà, bon, bah c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis à bientôt pour un autre père. Salut.
Salut Daniel, salut à tous. En direct d'Hirschland en Alsace-Bossue. une réunion publique qui rassemble un peu plus de 300 personnes. Une bonne nouvelle, ici on ferme les écoles, on ferme les sections dans les lycées, on ferme la poste, on ferme les entreprises, mais on ouvre peut-être la plus grande décharge de France, 95 hectares. Génial, non? Bon, ben, on vous tient au courant. Bye.
Alors, bonjour à tous, c'est Hamid de Marseille. Et donc, juste pour info, là, donc, je reçois le courrier donc, d'Impo, qui est accompagné d'une lettre, de M. Eric Woerth, ministre du Budget. Voici ce qu'elle dit, entre autres, « La lutte contre la fraude fiscale et sociale, je sais combien les fraudes vous choquent, elles fragilisent notre modèle républicain et notre modèle social. » Alors, juste pour info, donc, le modèle social est basé sur la solidarité. Alors, surtout, n'allez pas croire que ce sont la privatisation des services publics qui fragilise le modèle social, que c'est la réduction des fonctionnaires, le cadeau fiscal de 15 milliards aux plus fortunés, la suppression de l'impôt sur la fortune. N'allez surtout pas croire que c'est le budget de la défense ou le déremboursement des médicaments. N'allez surtout pas croire que c'est la réduction des aides de la CAF. N'allez surtout pas croire que c'est la réduction des indemnisations de chômage ou la légalisation du travail nocturne des femmes. N'allez surtout pas croire que c'est tout ça qui fragilise le modèle social. Non, 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 non. C'est la fraude sociale. Et pour ça, vous avez bien fait de voter Nicolas. Il va vous débarrasser de cette racaille. Voilà. Merci. Je suis content. Je pense que ne pas être le seul. Donc, continuez à être content. Et bon courage. Merci.
24 octobre 2006, Les Échos. Un arsenal de mesures pour lutter contre la fraude aux prestations sociales. 9 octobre 2006, Les Échos. La fraude à la sécurité sociale menace le principe de solidarité. 6 octobre 2006, Le Parisien. Le ministre de la Santé déclare la guerre aux fraudeurs. 29 juin 2006, Le Point. Dossier spécial sur la grande triche sociale. 9 mars 2006, Le Monde. La sécurité sociale va traquer les abus. 24 février 2006, Le Parisien. La Sécu intensifie la chasse aux fraudes. 24 février 2006, Le Figaro. La Sécu accroît la lutte contre les fraudes.
On va pouvoir maintenant traquer plus facilement les tricheurs au RMI, aux prestations sociales. Un décret qui va être publié dans les tout prochains jours va permettre de vérifier le train de vie exagéré de certains bénéficiaires, Florence Cohen.
Oui, les contrôles pourront commencer le mois prochain et en cas de doute sur sa situation, un bénéficiaire devra justifier son train de vie, preuve à l'appui. Et au besoin, la CAF pourra réviser son droit au RMI.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Renaud Lambert. La stigmatisation des démunis.
Flight number 2, arriving from New York.
Nous sommes le seul pays à ne pas avoir trouvé un juste équilibre entre les droits et les devoirs.
Fausse facture, acte fictif, il a fallu faire un véritable travail d'investigation avec des moyens renforcés.
Propos d'argent, la Caisse nationale des allocations familiales va renforcer sérieusement son dispositif de lutte contre la fraude. En 2006, on a repéré près de 4000 fraudes, 50% de plus que l'année précédente.
On va effectivement faire des enquêtes et on travaille en partenariat avec la police, la gendarmerie, le parquet et aussi les autres services de protection sociale.
Fausses déclarations, faux dossiers, faux noms, des escrocs ne manquent pas d'imagination.
Du simple abus passible d'un avertissement à l'escroquerie caractérisée.
Des mots, des phrases, des bribes, des bouts, des bruits, de la rumeur. C'est pas des infos ce qu'on entend, c'est pas des analyses, il n'y a rien de précis. C'est des nouvelles vagues. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, mais entre les deux, ça laisse un dépôt, ça laisse une trace dans la part de cerveau disponible. À quoi ressemble cette trace? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir et de savoir aujourd'hui. Parce que, pour l'essentiel, c'est ainsi que se fabrique l'opinion, par ce système d'amalgame confusionnel qu'on connaît bien dans la com. Là, par exemple, de quoi parle-t-on? Tout ce que vous venez d'entendre depuis la fin de la séquence sur les répondeurs. Mais de quoi parle-t-on? On entend fraude, érémie, train de vie, traquer les tricheurs. De quoi s'agit-il? On a voulu, avec Renaud Lambert, voir exactement de quoi il était question. Eh bien, il est question d'un décret. Il est question d'un décret qui a été publié le 28 janvier 2008 relatif aux modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales. Et en ce qui concerne le revenu minimum d'insertion, le RMI, il s'agit d'évaluer les éléments de train de vie des bénéficiaires, comme on dit, des RMistes, et notamment, ont-ils, oui ou non, des personnels et services domestiques? Ont-ils, oui ou non, des bateaux de plaisance? Ont-ils, oui ou non, des objets d'art ou de collection, d'articles de joaillerie, des métaux précieux, etc., etc.? Curieuse question, curieux décret. Et Renaud a voulu décortiquer ce décret, en connaître l'origine, la portée, et surtout, surtout, il a voulu chercher où peut bien se trouver ce RMiste qui a tout ça, qui a le bateau de plaisance, qui a les domestiques. On va le suivre dans sa quête jusqu'à 16h dans la basse Ligue.
Je cherche un RMiste avec un bateau de plaisance et ou un domestique.
Je vais demander à mon jardinier, mais pour l'instant, j'arrive pas à le joindre. Je peux l'appeler si vous voulez.
Les gens sont stressés. Les gens sont stressés. Les gens sont stressés.
Je me suis acheté la dernière Porsche. La X triple X 3000, ça s'arrache, le mec elle aime mon pote. Intérieur cuir, full option, excellente installation. Et bon ce qui va avec, bon sang, le bon son. J'ai des bijoux au bras, j'ai des bijoux au cou, waouh. J'ai des diamants de ouf et tout autour des coups. Puis j'ai une grande maison. Mais quand je dis une grande, c'est une grande intention, elle est énorme. Alors pour pas trop me casser le cul, j'ai des boys, des petits niaquets, des polonais, tout ça. Non, je déconne. Enfin, je déconne, oui et non. Parce que moi, faire la bouffe, c'est pas mon truc, non. Moi, c'est plutôt le pognon. Enfin bon, y a pas que le blé dans la vie non plus, hein. Faudrait peut-être pas l'oublier, y a aussi les petits culs, les petits culs, les petits culs, toujours les petits culs, les petits culs, les petits culs, toujours les petits culs.
Les gens sont stressés. Les gens sont stressés. Les gens sont stressés.
Oh, que je connais bien, lui. Sous le soleil des Antilles, pas vrai. Après mon cocktail, je joue au tennis. J'ai des colliers de boule au cou, j'ai des colliers de boule au bras. Enfin, tu sais, j'en ai partout et ça m'encombre grave. Je suis en vacances dans ce bled, perpète au Club Med, dans un bungalow immense de 500 mètres. Et comme je paye, je suis le maître. Ici, et c'est ce qui me plaît d'ailleurs, j'ai tous des petits larbins, ben qui m'aident. J'ai vu un pote de la jet set en jet ski. Il m'a dit, tu pars quand? J'ai dit, ben peu importe, tu es venu en jet. Il m'a dit, cool, moi aussi, ben viens au bar, je t'offre un whisky. J'ai deux, trois biches, nique pour ce soir. Elles sont totales naked et surtout totales bonnes, tu vois. Elles aiment la. Et le fric mêle son cœur. T'as vrai, Noémie? Aïe, mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Oh là 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 là!
Les gens sont stressés. Les gens sont stressés.
Et si, j'ai pas envie de parler de toi, j'ai envie de parler de moi.
Décret numéro 2008-88 du 28 janvier 2008, relatif aux modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous conditions de ressources. Du 30 janvier 2008, titre 1er, disposition relative au revenu minimum d'insertion. Article 1, sous section 5, évaluation des éléments de train de vie. L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants. Quatrième alinéa, personnel et services domestiques. Cinquième alinéa, bateau de plaisance. Septième alinéa, objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux. Alinéa 8, voyage, séjour en hôtel et location saisonnière, restaurant, frais de réception.
Oui, Daniel Mermet, oui, bonjour, c'est Raymond Ricarac.
Ben, je suis avec ton journaliste, hein, en train de rechercher donc un RMIS avec un yacht et puis des gens de maison, quoi. On cherche.
On cherche un RMIS avec un bateau de plaisance et ou un domestique.
Alors voilà, vous entendez brailler Renaud Lambert dans cette manif du 1er mai à la recherche d'un RMiste avec un yacht et des domestiques. Où voulez-vous trouver un RMiste, hein? Et voilà, ça pouvait être un endroit. Ce jour-là, ça peut être un endroit. Renaud Lambert est un garçon plein d'optimisme. Il a voulu quand même, par ailleurs, pour étayer sa recherche et sa quête, interroger Jean-Marie Bonnemère, qui est président de la Caisse d'allocation familiale de Belfort et vice-président de l'Union nationale des associations familiales, et qui analyse le décret que Renaud vient de vous lire et que vous avez bien présent à l'esprit, j'espère.
Alors, pour moi, c'est une véritable usine à gaz. Quand je vois que on demande s'il y a du personnel à domicile, du personnel domestique, là j'avoue que j'en reste pantois, parce que quasiment en 20 ans d'investissement bénévole dans le secteur social, je n'ai jamais rencontré de RMiste ou d'un locataire qui est chez lui employé du personnel domestique. Ça, c'est le premier point.
Vous avez peut-être mal cherché.
J'en ai rencontré pas mal, je ne l'ai jamais vu. Donc j'attends quand même de voir, surtout quand je vois qu'on nous dit, non seulement on cite le personnel domestique, mais je vois automobile, bateau de plaisance. Là aussi, moi, j'ai jamais croisé un RMiste qui avait un bateau de plaisance. Quand je vois que l'on va évaluer également le nombre de voyages, de séjours en hôtel, de locations saisonnières, frais de restaurant, frais de réception, biens et services, je n'ai jamais vu un RMiste s'amuser à avoir un train de vie où il serait en permanence, je dirais, dans des hôtels, il vivrait à l'international, il viendrait peut-être faire un détour en France pour toucher son RMI, peut-être un sur, on va dire, 100 000, mobiliser une armée de contrôleurs pour quelqu'un qui n'est pas représentatif, je dirais, de la situation. Enfin, tout ça est quand même quelque part à bras cadabra et totalement incohérent.
Même patron, même combat, régulariser tous les travailleurs.
Vous pouvez dire, lancer un appel pour dire qu'il y a un journaliste qui attend des RMistes avec des bateaux de plaisance, s'il vous plaît.
Vous cherchez des RMistes? Non, ils n'ont pas de bateaux de plaisance, les RMistes.
Et des domestiques?
Non plus, pas de domestiques, pas de maître d'hôtel. C'est un petit peu un appel sans issue.
Moi, je vais aller voir ailleurs.
Augmenter les salaires. Pas des actionnaires.
Ce décret, mais qui a été pris, je dirais, après tout un tas de discours qui nous sont tenus depuis 4 ans, en fait. Hein. Raffarin suggérait lui-même que les chômeurs, finalement, chômés, parce que tout compte fait, ils étaient feignants et qui partaient en courant devant le travail. L'expérience montre que non. On nous tient un discours depuis 2 ans sur les assistés sociaux en disant que l'on donne trop et on fait trop dans l'assistanat. On oublie d'ailleurs la plupart du temps que les gens que l'on qualifie d'assistés ne choisissent pas leurs conditions d'assistés. C'est des gens qui ont été écartés du travail à un moment ou du marché du travail parce que leur entreprise a fermé. Et lorsqu'on a vu, il y a eu des enquêtes d'ailleurs récentes hein, sur les RMistes notamment, tous déclarent que leur souhait premier, c'est bien évidemment de pouvoir travailler.
Je cherche un RMiste avec un bateau de plaisance et ou un domestique.
Oui, des RMistes qui ont des bateaux de plaisance, ça se serait. Des domestiques aussi, ouais. Des RMistes, c'est pas mal quand même comme histoire. C'est sérieux?
Alors oui, moi j'ai un domestique à la maison, c'est moi-même. Hein. Et mon épouse, voilà, on fait notre mélange, on fait tout nous-mêmes. Et j'ai effectivement un bateau, c'est un petit bateau gonflable, vous savez, avec mes enfants sur la plage. Et puis voilà, je fais donc du bateau. Donc je peux considérer qu'effectivement, je suis un RMiste qui a un bateau et qui a un domestique, voilà.
Apparemment, vous êtes en danger, hein. vous risquez de vous voir sucrer vos allocations.
Ben oui, le problème, c'est que sans allocation, comment faire pour rechercher du travail? On a calculé que c'est pas nous qui l'avons dit, c'est que le coût de la recherche du travail est environ de 450 euros par mois. Sachant que le RMI est au-dessous de 400 euros, ben moi je veux bien chercher du travail, mais il faut qu'on me donne les moyens de chercher du travail. Si on me les donne pas, ben je pense qu'à une chose, c'est essayer de remplir mon frigo, essayer de nourrir mes deux enfants, et puis voilà. Hein.
Quand vous dites le coût de la recherche du travail, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire envoyer des courriers, des timbres, des choses comme ça?
Alors les courriers, les timbres, il faut une voiture, il faut être propre et présentable sur soi, bien entendu, hein, pour se présenter devant un employeur. Et tout ça, bien entendu, ça a un coût.
Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on passe des décrets comme celui-là, là, des décrets train de vie pour aller vérifier les signes extérieurs de richesse chez les RMistes?
Moi, de mon point de vue, c'est surtout pour culpabiliser les chômeurs par rapport aux salariés. Voilà, c'est ça. C'est pour laisser croire, laisser entendre que s'il y a du chômage, c'est la faute à ceux qui ne veulent pas travailler. Et que s'il y a de la misère, c'est la faute aux gens qui ne veulent pas s'en sortir. Nous, on vit vraiment une situation d'injustice totale parce que on a. Moi, je suis au chômage. J'ai travaillé pendant des années, j'ai cotisé pour avoir des droits qui me permettent, en cas d'accident dans ma vie sociale, de me permettre de continuer à vivre à peu près normalement et de continuer à pouvoir chercher du travail. Et ça, c'est un droit aujourd'hui qu'on m'interdit. C'est ça le véritable problème, c'est ça, c'est qu'on ne me donne pas, on me fixe des obligations de rechercher des emplois, et moi je veux retrouver le travail, mais on ne me donne pas les moyens, c'est ça la difficulté. Donnez-moi les moyens de rechercher un travail, proposez-moi des emplois qui correspondent à ma qualification, et moi il n'y a pas de problème, demain matin je vais travailler.
Des feignasses! Tous ces chômeurs sont des feignasses, et ces RMistes sont des escrocs! Eh oui, mais non, personne ne parle comme ça. Personne ne parle comme ça. Il faut suggérer ces idées-là. Il faut suggérer cette idée-là. Et c'est pas facile. Et ce décret, quand même, suggère cette idée-là. C'est-à-dire que ces malheurs ne sont pas subis, ils sont choisis. Le chômeur choisit, le réémiste choisit sa vie. Et sinon, à quoi servirait un tel décret? Parce qu'un tel décret, vous l'avez entendu au début de notre émission, de ce reportage, il est repris, bien évidemment, par les médias, qu'il faut marcher cette machine à fabriquer l'opinion et en balançant toutes ces nouvelles vagues. Ça ne peut être que ça, l'usage de ce, la fonction de ce décret. Car comment trouver un RMiste doté d'autant de bien. Alors, on va parler de la fraude fiscale et de la fraude sociale. Attention, là, il y a un piège. Il y a un piège, il y a une entourloupe langagière, comme on en trouve souvent, et qui est très souvent exploitée, on va dire, ou qu'on observe, ou qu'on rencontre très fréquemment dans les médias et dans le langage courant sur cette fraude. Sur ces fraudes, selon le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport, écoutez bien, dans son rapport de février dernier, la fraude fiscale et sociale avoisine le déficit budgétaire de l'État, c'est-à-dire 36,2 milliards d'euros. Alors, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on appelle fraude fiscale et sociale? Dans notre esprit, il y a le fiscal d'un côté et le social de l'autre. Ça n'est pas ce qu'il y a dans l'esprit du Conseil des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'ex-Conseil des impôts. On totalise les deux, fraude fiscale et fraude sociale, c'est-à-dire 36,2 milliards d'euros. Il s'agit de recettes et non pas de prestations. La fraude aux prestations équivaut à 1 milliard, 1 milliard et demi. Les tricheurs, les escrocs, etc., c'est 1 milliard, 1 milliard et demi. Par contre, la fraude au fiscal et social, au total, est de 36,2 milliards. Qu'est-ce que c'est la fraude fiscale? Eh bien, c'est la TVA qui n'est pas payée, 12,4 milliards d'euros. C'est l'impôt sur les sociétés, 4,6 milliards d'euros. C'est l'impôt sur les revenus, 4,3 milliards d'euros. Ce sont les impôts locaux. Voilà le total, 1,8 milliard pour les impôts locaux. Voilà le total de la fraude fiscale. Quant à la fraude sociale, elle est celle des entreprises qui ne payent pas leurs charges sociales et par voie de conséquence, bien évidemment, les employés, les salariés qui ne payent pas leur part salariale. Cette fraude-là, elle est du tiers de la fraude au total. Vous me comprenez bien, fraude fiscale et fraude sociale confondues, c'est autour de 36 milliards d'euros. Deux tiers concernent la fraude fiscale et un tiers la fraude fiscale, la fraude sociale. Mais encore une fois, il s'agit des recettes et non pas des prestations. Et non pas de la fraude sur les prestations. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Je sais bien que c'est pas très fastoche, mais il faut absolument comprendre ça. Sinon, eh bien, on se fait rouler dans la farine comme des petits merlans. Alors, voilà Daniel Buchet, qui est directeur de la lutte contre la fraude à la Caisse nationale des allocations familiales.
Alors, Monsieur Buchet, vous êtes responsable de la lutte contre la fraude pour la Caisse nationale des allocations familiales en France. Et ces caisses, ce sont celles qui versent notamment le RMI, qui nous intéresse tout particulièrement ici. Est-ce que vous pourriez, avant toute chose, nous donner quelques éléments pour mieux cerner un peu le montant de la fraude aux prestations sociales ?
La fraude, c'est un phénomène relativement réduit. Nous dénombrions en 2006 de 3654 cas de fraude. Le préjudice financier s'élevait au total à environ 35,1 millions d'euros. Alors, il faut rapporter ça aux environ 60 milliards de prestations que nous versons, y compris donc le RMI. Donc le montant de la fraude peut apparaître comme relativement faible par rapport à l'ensemble des masses financières que nous gérons. Le RMI est une prestation qui fait l'objet de pas mal de contrôles.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire, nous effectuons environ tous les ans, sous toute forme, 60 millions d'opérations de contrôle.
Sur combien d'allocataires ?
Un peu plus de 10 millions d'allocataires.
C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque allocataire du RMI va être l'objet de 6 contrôles, en gros ?
Environ, voilà.
On en vient directement au décret qui nous intéresse. C'est un décret qui est passé le 30 janvier 2008, qui s'intitule « Décret train de vie ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et comment il va être mis en œuvre ?
Alors, c'est une mesure qui vise à répondre à vraiment des cas assez marginaux, pour ne pas dire très marginaux, de personnes qui soit disposent d'un patrimoine relativement important, les cas sont relativement rares, enfin, il faut réellement disposer de plusieurs éléments de train de vie, propriétés, capitaux, voitures, objets d'art, enfin, pour finalement être assujetti à cette mesure. Cette mesure est destinée à avoir une application relativement limitée, très limitée.
Les dossiers sont nombreux.
Le dossier est énorme.
Parfois, les fraudes sont spectaculaires.
Viennent 31 personnes, membres de deux familles, viennent d'être interpellées. C'était de faux RMistes qui travaillaient au noir.
Le dossier est énorme.
Les dossiers sont nombreux. L'an dernier, la CAF a tout de même repéré 3600 cas de fraude, ce qui représente 35 millions d'euros.
La fraude à la sécurité sociale semble porter ses fruits. Elle a permis de réaliser 200 millions d'euros d'économies ces deux dernières années, selon l'assurance maladie, qui annonce des contrôles intensifiés.
Au palmarès des prestations les plus souvent touchées, on trouve en numéro 1 le RMI ou revenu minimum d'insertion.
Le dossier est énorme.
Par ailleurs,
les dossiers sont nombreux. Enfants fictifs, usurpation d'identité, fausses déclarations. Pour lutter contre ces types de fraudes, les agents de la CAF ont des outils technologiques de plus en plus perfectionnés. Mais les fraudeurs, eux aussi, ont du matériel de plus en plus pointu. Bref, le jeu du chat et de la souris n'est pas prêt de s'arrêter.
Saisissant, non ? Saisissant. Entre ce que nous dit Daniel Buchet, directeur de la lutte contre la fraude à la Caisse nationale des allocations familiales, ce qu'il vient de nous dire, et ce qu'ont dit les médias à la suite de la publication de ce décret. C'est absolument saisissant. Peut-être que l'amalgame langagier que je viens d'essayer d'éclairer explique, pourrait justifier cette confusion, mais c'est quand même un peu stupéfiant. Alors, le point de vue de Jean-Marie Bonnemère, président, je le rappelle, de la Caisse d'allocation familiale de Belfort et vice-président de l'Union nationale des associations familiales. Pourquoi un décret uniquement pour une poignée de cas ?
Alors, nous, on a pris le temps de téléphoner au responsable de la fraude pour les caisses d'allocation familiale, M. Bûcher, qui nous explique qu'en effet, on s'attend à ce qu'il y ait très peu de gens qui correspondent un petit peu au profil qui est décrit. Alors, on pourrait dresser un parallèle. On parle beaucoup en ce moment d'un Autrichien qui aurait séquestré sa fille pendant 24 ans. C'est un cas isolé, même en Autriche. On pourrait dire qu'en fait, qu'à partir de ce cas-là, rare, on mettrait en œuvre un décret et une batterie de contrôleurs pour aller vérifier les caves de tous les pères de famille, parce qu'un cas a été révélé, et que de la même façon, parce qu'on aurait rencontré un RMIS qui éventuellement avait un bateau de plaisance, on passerait un décret en France pour aller vérifier tous les RMIS.
Oui, alors c'est une comparaison que je n'aurais pas osé faire, mais effectivement, on est dans une telle exagération que l'on arrive, je dirais, à un discours qui est complètement aberrant. On voit bien qu'on est sur deux univers complètement parallèles et qu'en aucun cas il y a coïncidence entre la réalité que vivent les gens et puis la réalité de leurs conditions de vie et puis tout un arsenal, je dirais, législatif ou administratif qui est mis en place et qui n'a rien à voir avec cette réalité. On est dans la mise à condition parce que taper effectivement sur les RMistes, etc., les chômeurs en décrétant qu'ils sont des feignants et qui fuient le travail, ça dispense aussi de mettre en place de véritables procédures, je dirais, de réintégration dans le travail ou dans notre société. Et c'est peut-être cela que l'État ne veut pas faire. Ouais.
Je cherche un RMiste avec un bateau de plaisance et ou un domestique.
Ouais, moi j'en connais pas beaucoup dans ce cortège-là.
Ouais, j'en connais un, il s'appelle Bolloré.
Il est RMiste ?
À mon avis, ouais, c'est le revenu maximum d'insertion.
Pourquoi on a fait un décret là-dessus ? Parce que je pense qu'il y a eu des on-dit, des gens malveillants qui ont raconté des salades, pour moi c'est ça, et que maintenant on essaye de fliquer encore des gens, encore les plus démunis, c'est tout. C'est les RMIs les plus touchés. Justement, c'est pour... Parce qu'ils en ont après les RMIs. Ce qu'ils veulent, c'est que les RMIs... Ils trouvent que les RMIs sont des feignants.
Extraordinaire, non ? Fallait-il pour cela un décret ? Fallait-il un décret ? Encore une fois, je rappelle, décret 28 janvier 2008, relatif aux modalités d'évaluation, etc., etc., évaluation des éléments de train de vie des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, personnel, service domestique, automobile, bateau de plaisance, etc., etc., etc. Étonnant, étonnante décision politique donc d'un gouvernement, encore une fois, le point de vue de Jean-Marie Bonnemère.
La fraude fiscale depuis pratiquement 25 ans est évaluée en France aux alentours de 40 milliards d'euros. Donc il y a une disproportion de 1 à 40. On sait très bien, il y a eu l'affaire récente d'ailleurs au Luxembourg, et où on a cru comprendre que 200 Français étaient impliqués et avaient évacué un certain nombre d'avoirs en
1 milliard.
En catimini, 1 milliard, je me souvenais plus du chiffre, en catimini sur un des paradis fiscaux de l'Europe. Mais je rappelle que quand même, dans l'Europe, il y a déjà à peu près entre 10 et 11 paradis fiscaux. Et qu'il s'y passe bien évidemment des choses. Et que depuis que l'Europe s'est constituée, on refuse bien évidemment de s'en occuper sérieusement. S'il y a du grain à moudre, je dis que c'est de ce côté-là qu'il faut le trouver.
12 mars 2008, Le Parisien. 100 escrocs à la sécu, au tribunal. 11 octobre 2007, L'Express. Fraude sociale, le hold-up. 16 août 2007, Le Parisien. Les limiers de la sécu s'organisent. 12 avril 2007, Le Point. Dossier spécial sur la France assistée. 17 décembre 2006, Le Monde. La sécu amplifie la traque aux abus. 15 décembre 2006, Le Figaro. Sécu, la lutte contre la fraude gagne en efficacité. 14 décembre 2006, Le Parisien. 15 fois plus de fraude à la sécu cette année. 25 octobre 2006, Le Figaro. La fraude à la protection sociale, un sport national. 24 octobre 2006, Le Parisien. Nous allons regarder le patrimoine des bénéficiaires de la CMU.
La traque aux abus, selon le journal Le Monde. Voilà le point de vue sur cette histoire singulière, le point de vue de Serge Collin, ancien secrétaire général du SNUI. Le SNUI, c'est le syndicat national uni des impôts, qui est le syndicat majoritaire aux impôts.
Nous avons, en ce qui concerne notre syndicat, le SNUI, depuis des années, démontré qu'il y avait une fraude fiscale qui devait avoisiner les 45 milliards d'euros par an. Et c'est l'équivalent du déficit budgétaire annuel. C'est quelque chose d'important. Et nous sommes assez surpris que jamais, justement, le ministère des Finances ne veut communiquer sur ce qu'est l'ampleur de la fraude fiscale en France.
Alors attendez, vous nous dites plus de 40 milliards d'euros, c'est énorme. La fraude aux prestations sociales, pour rappeler aux auditeurs, c'est estimé à peut-être un petit peu plus d'un milliard cinq par an. Là, on est presque dans 30 fois plus, c'est beaucoup plus important. Est-ce que on met en place des décrets, comme le décret qui nous a intéressé dans cette émission, le décret qui nous intéresse, décret train de vie, qui permet, avant même d'avoir les soupçons, le moindre soupçon sur un contribuable, de mettre en œuvre tout un tas de recoupements sur son train de vie, les montres qu'il porte, les yachts qu'il peut posséder, pour être sûr que cette personne n'est pas un fraudeur fiscal?
Ben écoutez, nous sommes assez étonnés de voir quelles sont les orientations qui sont données aujourd'hui en termes de lutte contre la fraude. Certes, il faut lutter contre ces petits fraudeurs, toute fraude est condamnable, mais nous n'avons pas aujourd'hui les mêmes moyens proposés par les orientations de M. Sarkozy aujourd'hui ou de M. Woerth. Nous avons porté depuis fort longtemps un slogan, mais qui est bien plus qu'un slogan, c'était « les riches sont plus riches, les pauvres toujours plus pauvres ». C'est vraiment d'actualité aujourd'hui.
Et c'était d'actualité aujourd'hui, d'autant plus qu'un rapport de l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale vient de l'étayer ses propos.
Hein. Absolument, justement, c'est bien pour ça que cette formule que nous utilisions il y a quelques années, nous sommes malheureusement, je dirais, malheureusement heureux de l'avoir prendre cette dimension aujourd'hui, parce que si les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, c'est bien aussi parce que quelque part, la fiscalité n'est plus aujourd'hui conforme à ce qu'étaient sans doute les éléments essentiels de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui visait à ce que chacun contribue à hauteur de ses moyens.
Alors, continuons le combat, continuons la recherche et continuons peut-être à essayer d'optimiser les revenus. Tout le monde cherche à optimiser ses revenus. Hein, et à payer le moins d'impôts possible, quels que soient les revenus et quels que soient les impôts que l'on paye, bien évidemment. D'où cette démarche un petit peu singulière de Renaud Lambert.
Oui, bonjour. Je suis à la recherche d'un cabinet pour savoir comment toucher plus de minima sociaux. J'ai trouvé beaucoup de cabinets pour payer moins d'impôts. Bon, moi, ça me concerne pas tellement, parce que bon, moi, j'ai pas tellement de patrimoine à gérer, mais par contre, je voudrais toucher plus de minima sociaux. Mais par contre, moi, je déteste la fraude, je veux pas frauder, quoi. Voilà. Est-ce que vous faites ce genre de choses, vous?
Alors, un instant, je vais essayer de me renseigner, ne quittez pas.
Hein. Merci.
Patientez quelques instants.
Allô?
Oui.
Non, je vous invite à regarder et à appeler un autre cabinet.
D'accord. Donc, vous faites que la diminution d'impôts, quoi, c'est ça?
Je dirais, voilà, et les droits d'entrée chez nous sont à hauteur de 500 000 euros, donc je pense pas que vous fassiez partie de la cible.
Ah, il faut 500 000 euros pour rentrer chez vous?
Tout à fait.
Ah ouais.
Donc je ne pense pas que vous fassiez partie de la cible de notre clientèle ou...
Ah, vous...
Est-ce que vous me parlez de minima sociaux
Bah ouais, mais en fait, moi, je veux... Ouais, non, moi, j'ai pas 500 000 euros, mais je voulais juste toucher un peu plus, quoi. Vous, en fait, vous aidez déjà des gens assez riches, quoi.
Disons qu'ils ont un patrimoine et on fait du conseil. C'est pas qu'on aide, on fait du conseil. Moi, je vous invite à regarder peut-être une autre structure parce que là, pour vous aider, je vois pas trop en quoi on peut vous aider là-dessus.
Vous pouvez toujours, je vais vous donner un numéro de portable pour vous diriger vers un conseiller hein, qui
oui.
pourra peut-être vous répondre. Voilà.
Ok, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bah, écoutez, non, moi je connais pas les minima sociaux. Moi je suis agent général AXA. Donc...
Et vous faites aussi des choses pour payer moins d'impôts, non? Des choses comme ça?
Oui, tout à fait, oui. Oui.
D'accord.
Là, effectivement, si vous avez... mais ça n'a rien à voir avec les minima sociaux.
Ouais, d'accord. Non, en fait, parce que moi, je voyais... D'accord. Mais je voyais ça comme vous aidiez les gens à moins payer d'impôts d'un côté, oui. Et vous auriez aidé les gens à plus toucher d'argent, quoi.
Non, alors, je les aide, effectivement, à ce niveau-là, mais à un autre niveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas au niveau de ceux qui ont les plus petits revenus, c'est plutôt ceux qui ont des hauts revenus, qui payent trop d'impôts, et que j'aide à en payer moins, dans la mesure du possible, quoi. On investit sur leur argent. Voilà. Bon, désolé, mais je peux pas vous aider, non.
Alors, bah écoutez, je peux laisser le message en français si vous voulez. Quel est votre nom?
Monsieur Lambert.
L-A-M-B-E-R-T.
Voilà.
À quel numéro il peut vous joindre? Entendu, je lui transmets cela et il vous rappellera pour vous conseiller là-dessus.
Bon, impeccable, merci bien. Au revoir.
Après, au revoir.
Et en Haute-Vienne, 31 personnes, membres de deux familles, viennent d'être interpellées. C'était de faux RMistes et qui travaillaient au noir par ailleurs.
Le dossier est énorme. Fausse facture, actes fictifs. Il a fallu faire un véritable travail d'investigation avec des moyens renforcés.
Propos d'argent, la Caisse nationale des allocations familiales va renforcer sérieusement son dispositif de lutte contre la fraude. En 2006, on a repéré près de 4000 fraudes, 50% de plus que l'année précédente.
On va effectivement faire des enquêtes. Et on travaille en partenariat.
Et vous avez entendu, hein? Aïe, 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 aïe. Renaud Lambert ne fait pas partie de la cible dedans. Les RMIs ne font pas partie de la cible. 500 000 euros pour être conseillé pour. Pas aider, hein? Oula! Mais conseiller pour payer moins. Là, on pourrait penser qu'effectivement, ce moins va ailleurs. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le rôle aujourd'hui de l'État, qui on pourrait le croire et on pourrait le souhaiter, devrait être de redistribuer, de réduire les inégalités. Ben, on a l'impression qu'il fait l'inverse. Enfin, peut-être pas l'État, mais en tout cas le gouvernement. C'est le gouvernement qui gouverne l'État et qui a plutôt tendance à accentuer ces inégalités en stigmatisant les démunis, c'est-à-dire en décourageant la solidarité. On n'est pas solidaire avec un escroc, bien évidemment. Alors c'est une association de malfaiteurs. On n'est pas solidaire de quelqu'un qui choisit de ne rien faire, d'une grosse feignasse mollasse. On n'est pas solidaire, on s'amuse, mais enfin on n'a pas envie de l'aider. Eh bien, à travers des décrets comme... un décret au moins comme celui-là, et tout l'écho médiatique qui s'ensuit, c'est bel et bien ce qui est suggéré. Tant il est vrai qu'en matière d'infos, en matière de médias, ce qui compte, ce n'est pas l'information, c'est la façon dont elle est perçue. Ce qui est fort différent de l'info elle-même. Au fond, l'info, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la perception. On retrouve Monsieur Bonnemère.
Ce qui est dangereux dans ce discours, c'est surtout qu'il généralise finalement un regard soupçonneux vis-à-vis de toutes les personnes qui sont en difficulté sociale. C'est-à-dire qu'on est dans la suspicion a priori. Et quand même, c'est intéressant ce que vous venez de dire sur la fraude fiscale. C'est que d'un côté, on les considère comme présumés innocents, notamment ceux qui ont fait leur placement au Luxembourg. Et de l'autre, on tente à considérer que toute personne qui est en difficulté sociale grave, il est suspect. D'ailleurs, ça recoupe un autre discours qui consiste aussi à renvoyer aux gens leur responsabilité individuelle par rapport à leurs conditions et à leur état. En gros, s'ils sont sans travail, sans logement, sans difficulté, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup cherché, c'est que dans leur être même, il y a quelque chose qui cloche et qui les empêche d'être au travail. Et donc, quelque part, je dirais que si le marché les sanctionne, c'est bien fait pour eux, quoi, d'une certaine manière. Ce qui est quand même une rupture totale avec tous les acquis qui a pu y avoir depuis 1945 dans la protection sociale. Donc c'est là où il y a un hiatus qui est complètement incompréhensible.
Oui, alors le temps passe, il est 15h53 sur France Inter, 15h53 et quelques secondes, et Renaud Lambert n'a toujours pas trouvé le RMiste avec un bateau de plaisance et des domestiques. C'est quand même embêtant. Alors il a une idée géniale, parce que c'est un journaliste très très avisé, c'est d'appeler le service de la com, le service de la com des allocations familiales, ce que n'ont pas dû manquer de faire nos confrères. Avec toutes les informations que vous avez entendues depuis tout à l'heure, ils ont bien dû se tourner vers ce service. Voilà le coup de téléphone et voilà ce que cela a donné.
Au départ, on a eu pas mal de chaînes de radio et de télé qui nous appelaient ou qui ont voulu faire des reportages sur cette question-là, d'ailleurs. Et puis tout ça, ça s'est un petit peu...
Mais cette affaire de décret, c'est quand même assez bizarre, parce que moi, j'ai fait une recherche, comme on en a parlé dans les 20 heures, on a parlé un peu partout. Puis
derrière... Ah, bah, tout à fait. Moi, j'ai passé une journée sur le terrain avec une équipe de TF1, là-dessus.
D'accord.
On n'a pas fait de sous gras avec ça pour l'instant. On devait refaire une mail avec TF1 parce que pour l'instant on n'a pas trouvé de dossier particulièrement intéressant entre guillemets pour refaire quelque chose.
Ça fait un peu effet d'annonce hein, quand même.
Un petit peu.
Ouais, un tout petit peu quand même. Ouais. Ça marche.
Hein
bon, bah, okay. Au revoir.
Bonne chasse.
Et si, vous le trouvez, hein, le RMiste qui est milliardaire, vous m'appelez, comme ça on fera le sujet.
Oui, bah, on en trouvera peut-être un jour, mais non. Ouais.
Ok.
Voilà.
Bon. Bah, allez,
bon,
au
plaisir.
Ok, au revoir.
Nous sommes le seul pays à ne pas avoir trouvé un juste équilibre entre les droits et les devoirs.
Fausse facture, acte fictif, il a fallu faire un véritable travail d'investigation.
Les dossiers sont nombreux.
Le dossier est énorme.
Fausse déclaration, faux dossier, faux nom, des escrocs ne manquent pas d'imagination.
On va effectivement faire des enquêtes. Et on travaille en partenariat avec la police, la gendarmerie, le parquet et aussi les autres services de protection sociale.
Au mot d'argent, la Caisse nationale des allocations familiales va renforcer sérieusement son dispositif de lutte contre la fraude.
Le dossier est énorme.
Les dossiers sont nombreux.
En 2006, on a repéré près de 4000 fraudes, 50% de plus que l'année précédente.
Du simple abus passible d'un avertissement à l'escroquerie caractérisée, c'est toute la Caisse qui est mobilisée pour repérer les cas douteux dès la saisie des données.
Le dossier est énorme.
Les dossiers sont nombreux.
Je te prends à bras le corps, de part en part, de port en port, ad vitam aeternam, à fond la caisse, à la partie adverse, à l'est, à l'ouest, à qui mieux. Je te prends à la queue leu, à froid, à chaud, à l'oreille du bois, à l'arraché, aux abois, je te prends à bâbord. Force 8 à ton triste sort, à la va-vite, je te prends à l'avant, à l'arrière, à feu et à sang, à la guerre comme à la guerre, je te prends à l'endurance, à sang chaud, à sang fer, péter la panse, à la pêche, à la lèche, à la crie, à la mer, à l'acheter, à froid, à chaud, à la levée, à l'anglaise, à faune, à la loyale, à la fourbe, à la sauvette, et à fin de cale, à l'étroit, à la lettre, à pudeur, à tue-tête, à l'aube, à cran, à fond les manettes, à l'insu, à la coule, à la fraîche, à cul, à vélo, à volo, à pied, à main nue. Corps perdu à la louche, à la cuillère, la mouche, à face, à ce bourse, à plusieurs, à pique, à preuve, à carreau, à cœur, à l'envol, à part, à poire, ailleurs, à poire, à rigueur, à fleur, à la dure, à l'aventure, à la tête, à la voyeur, à la boîte de gaine, à l'encombre, à l'antenne, à l'abordage, à l'ouverture, à la sauvage, à la traite, à l'usure, à l'étage, à la scène, à la vie, à la mort, à l'étoile, à fond, ailleurs, à Dieu, à tout, à aller, à bout de souffle, je te prends.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Jean-Marie Bonnemère, à Serge Collin et à Christian Flotte du SNUI, à la PES, à Jean-Pierre Guénantaine et à Sophie Ancard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. Là-bas.org. Vous pouvez réécouter cette émission et beaucoup d'autres émissions, quelques centaines d'émissions sur le site non officiel de Là-bas si j'y suis. Et puis j'ai parlé du programme à Cannes de la MJC Pico, où hier, en début d'après-midi à 14h, nous avons présenté notre Chomsky et compagnie. Et donc il y a tout un programme de films toute la journée, il y a toutes les 2h ou 2h30, il y a évidemment abondance de films, mais toujours très très bien choisis et bien sélectionnés dans cet endroit très sympathique. Alors j'ai parlé de la projection de ce film, si vous faites partie des SMG, c'est-à-dire les souscripteurs modestes et géniaux, sachez, chers souscripteurs modestes et géniaux, que vous allez très très bientôt recevoir le film auquel vous avez souscrit, le DVD auquel vous avez souscrit il y a un an. Effectivement, c'était toute une aventure. Vous êtes environ 7000 à avoir souscrit à ce film et vous allez le recevoir avec un emballage spécial pour vous dans les jours qui viennent, on pense d'ici là, pour la fin de ce mois, on va organiser un certain nombre de projections un petit peu partout. Il y en a une qui est en préparation, je sais, à Besançon, une autre à Nice, on vous donnera des dates, une autre sans doute à Aix ou à Marseille. En tous les cas, voilà, on arrive à bon port pour cette histoire. On aura l'occasion d'en reparler à la technique aujourd'hui. Patrick Henry et Rémi Quincès, c'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et c'est la même Charlotte Perry qui se tient près du répondeur et qui attend vos messages au 01 56 40 37 37.